Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Ce mardi encore, nous sommes en direct du tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est la radio officielle. Alors comme tous les jours, il est évidemment à mes côtés, les baskets aux pieds, avec le petit t-shirt qui va bien, qui fait tennis, qui fait sport, tout ça, c'est le docteur Jimmy Mohamed, très à l'aise, très à l'aise. Hein.
Oui,
bonjour Jimmy.
Des photos, bonjour.
Oui,
Mélanie,
vous êtes content, hein, comme un enfant aujourd'hui.
Content, on a de la chance d'être.
Ouais. Allez, au sommaire, ce mardi, on va vous révéler certains des secrets de la consultation de gynéco. Alors là, tout de suite, vous vous dites peut-être, eh bien, c'est bien aussi si ça reste secret. Eh bien non, on a des sujets, il y a des sujets dont il faut parler, comme la contraception, comment choisir la bonne, un fibrome c'est quoi, et avoir des kystes aux ovaires c'est grave, pas de tabou dans son rendez-vous, on vous explique tout. Et pour cela, nous recevrons Juju la Gigi. C'est un pseudo, bien sûr. Elle est gynécologue obstétricienne et l'auteur du livre Le guide gynéco joyeux et décomplexé aux éditions First. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va d'ailleurs plutôt décrypter un produit de notre quotidien très présent dans l'alimentation des Français, le lait. Qu'est-ce qu'il contient d'ailleurs précisément? En quoi est-il bénéfique pour notre santé, que l'on soit petit ou grand? On fera le point. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme très incommodée par une vilaine habitude, un tic peut-être même, de son conjoint.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question de Raphaël. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Depuis quelques temps, dès que je mange certains aliments, comme de la charcuterie, du saucisson et même en petite quantité, j'ai tout de suite des douleurs au ventre qui se terminent souvent en diarrhée au bout de quelques heures. Et après ça, tout va bien, je n'ai plus aucune douleur. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Et est-ce que ça peut être grave? Et est-ce que je dois aller consulter mon médecin? J'espère que vous aurez une réponse à l'emporter. Bonne émission et bonne journée.
Merci beaucoup Raphaël. Alors pour vous répondre précisément sur cette question, nous avons interrogé pour vous le docteur Jean-Marc Sabaté. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Il y a plusieurs explications possibles. Ça peut être d'abord, c'est assez rare, une réaction d'intolérance à certains aliments. Ce qu'il faut faire, c'est éviter d'en prendre. Après aussi, il y a une réaction à certains aliments gras qui peuvent ralentir la vidange de l'estomac. Alors là, ça ne donne pas de diarrhée, mais plutôt de lourdeur au niveau gastrique. Ça peut aussi entraîner le fait de garder plus de gaz dans l'intestin grêle et sensibiliser au niveau du rectum et par ce biais peut-être entraîner une diarrhée ou des douleurs. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique, c'est l'arrivée des aliments dans l'estomac qui va déclencher des contractions au niveau de l'intestin grêle et favoriser la sortie de sels qui étaient déjà présents dans le côlon depuis longtemps. Alors en soi, c'est pas grave, notamment si elle a ça depuis longtemps. Il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas de fatigue particulière et il faut consulter donc en fonction de la gêne ressentie.
Voilà, c'était le docteur Sabaté au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est Emma qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, Mélanie. J'aurais une petite question, s'il vous plaît. J'ai en ce moment les yeux qui deviennent un peu jaunes, surtout quand je suis fatiguée et mon teint est un peu jaunâtre. Ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est grave ou pas? Voilà. Merci pour votre réponse.
Alors Jimmy, les yeux qui deviennent un peu jaunes, dit Emma, et même le teint de manière globale, moi je dirais, alors je ne suis pas médecin, vous allez dire peut-être que je dis des bêtises, mais attention, il faut aller voir du côté du foie.
Oui Mélanie, vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes restée à côté d'un médecin durant 12 ans.
Vous m'avez infusé, inspiré.
Exactement,
hein,
donc
ça, voilà.
Vous avez raison. Alors on va rappeler, hein, la bilirubine, c'est un pigment de couleur jaune qui est issu de la dégradation de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce que vous allez retrouver au niveau des globules rouges. Cette bilirubine, elle va être transformée, mélangée dans le foie, et puis passée aussi dans les intestins. C'est d'ailleurs ce qui va donner la couleur un peu brunâtre des selles. C'est pas sexy, mais c'est la vraie vie. Et donc, une affection du foie va permettre d'augmenter ce taux de bilirubine qui peut être responsable de cette jaunisse qu'on peut avoir.
D'accord. Et chez les bébés, c'est ça? C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il y a la jaunisse du nourrisson. C'est dû aussi à ça, la bilirubine?
Oui. Avant de parler des bébés, parlons des adultes. Hein. Lorsque vous avez, je vous ai dit, le foie qui va être malade, il est possible d'avoir cette augmentation de la bilirubine. Une cause très fréquente et très classique, c'est l'hépatite. Vous avez une hépatite virale, vous allez avoir ce taux de bilirubine qui va augmenter. Mais aussi, si jamais vous avez un calcul sur les voies biliaires, vous avez le calcul de la vésicule, celui-ci peut augmenter le taux de bilirubine. Et à ce moment-là, vous allez avoir des douleurs et de la fièvre. Enfin, la cause quasiment la plus fréquente, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de Gilbert. Alors, rien à voir avec quelqu'un qui s'appellerait Gilbert.
Mon oncle, par exemple.
Qui s'appelle, je ne sais pas si. Mais c'est fréquent, c'est quasiment 7% de la population. En fait, vous avez au niveau du foie une enzyme qui manque. Cette enzyme, elle est responsable de la dégradation de la bilirubine. Comme cette enzyme, elle n'est pas présente, eh bien, le taux de bilirubine va augmenter et vous donner cette jaunisse avec certains facteurs déclenchants, notamment la fatigue. Si vous avez une infection, si vous êtes stressé, eh bien, cette bilirubine peut augmenter, vous avez de la jaunisse, mais aucun autre symptôme.
Pour terminer, Jimmy, on est d'accord, ce qu'elle décrit, ces symptômes, ces yeux qui deviennent un peu jaunes, ce teint qui jaunit, vaut mieux consulter rapidement.
Oui, on fait une prise de sang pour vérifier ce taux de bilirubine, vérifier s'il y a une atteinte des enzymes hépatiques, vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Chez l'enfant, vous l'avez dit, il y a l'ictère du nouveau-né et ça passe très rapidement sans aucun traitement.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Emma qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler de gynécologie joyeuse et décomplexée. Toutes les questions que vous vous posez, mesdames, mais messieurs aussi, hein, mais que vous n'osez pas toujours poser sur notre intimité à nous les femmes ou les problèmes qui peuvent y être associés. Pas de tabou, vous le savez, dans Sans Rendez-vous. A tout de suite sur Europe 1.
Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble en direct de Roland-Garros, comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Juju la Gigi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je vous précise tout de suite, hein, Juju la Gigi, c'est un pseudo. Vous êtes gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années. Et ce pseudo, c'est celui qu'on retrouve sur votre compte Instagram. Vous avez près de 60 000 abonnés. Et c'est sous ce nom également que vous avez publié donc, le guide joyeux et décomplexé aux éditions First, le guide joyeux de gynécologie. J'oublie à chaque fois le mot comme si c'était tabou.
Pourtant, c'est écrit. Hein,
ben oui, mais je sais pas, comme si c'est moi, ça me gênait, mais pas du tout, vous le savez. Alors, bouquin dont vous êtes déjà venu nous parler d'ailleurs dans cette émission. Et comme on était resté un peu sur notre fin, on s'est dit, tiens, on va la réinviter, Juju la Gigi. Pourquoi avoir écrit ce livre, créé ce compte? Ça part de quel constat d'abord professionnel, je vais dire?
En fait, c'est pas parti d'un constat professionnel, c'était vraiment quelque chose qui était en moi depuis une dizaine d'années. J'avais envie de faire un livre, j'avais envie de raconter ce qu'on vivait à l'hôpital et de faire des dessins. Et puis, en fait, j'ai créé la page pour pouvoir me faire repérer pour le livre par une maison d'édition. Et en fait, la page est maintenant vit par elle-même et j'ai continué parce qu'effectivement, ça répond à une demande.
Alors, on a un accès à l'information quasiment illimité, mais j'ai l'impression que les femmes et les hommes aussi connaissent mal leur anatomie. On sait grosso modo à quoi ressemble un vagin, un utérus, des trompes. Jusque-là, je pense que c'est gérable. Mais on ignore certains autres éléments comme les glandes de Bartholin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et si ça sert vraiment à quelque chose?
Bah évidemment, ça sert à quelque chose. Elles sont deux. Il y en a une de chaque côté de l'entrée du vagin et elles servent principalement à la lubrification du vagin. Mais en général, on les découvre quand elles s'infectent et qu'on a une bartholinite parce que ça fait extrêmement mal. Et c'est à cette occasion que les femmes découvrent qu'elles ont à leur dépens glandes de Bartholin.
Bartholin, donc il y en a deux, tout le monde en a, a priori, on est à la naissance.
Hein.
Puisqu'on est sur les glandes inconnues au bataillon, je veux dire les glandes intimes, féminines, il y en a aussi une autre qu'on appelle la glande de Sken, je ne sais pas si je le dis bien,
Skene, ouais, c'est ça.
Sken, Kesako,
elles sont aussi deux, et de part et d'autre de l'urètre.
Bon, je pensais qu'on avait les ovaires, hein, ça c'est sûr, il y en a deux, mais il y a aussi plein de glandes en fait.
Oui, hein. Non, c'est... Voilà, d'accord.
Alors, on va passer à la consultation. C'est vrai qu'on résume parfois et on fait un raccourci entre gynécologie et vagin. Et on pense que les femmes, lorsqu'elles vont venir vous voir, on va juste s'intéresser à leur vagin. Alors que non, vous faites bien d'autres choses qu'examiner des vulves.
Oui, oui, oui. Et on considère tous les organes génitaux, mais aussi les seins. Et puis, plus généralement, les femmes dans leur entièreté, dans leur personne. Enfin, on ne peut pas, évidemment, juste soigner un vagin. Ça n'aurait pas de sens.
Vous aimez bien, d'ailleurs, cette partie-là de la consultation. Vous discutez avec vos patientes.
Oui,
c'est important.
Bien, oui.
Et puis, il en ressort parfois des choses assez incroyables. Hein.
Effectivement, c'est vrai que moi, j'ai envie d'être un soignant de l'humain et pas juste des parties génitales. Ça n'aurait vraiment aucun sens.
C'est laquelle, la dernière patiente qui vous a marqué, par exemple? Je sais que sur votre compte Instagram, vous mettez souvent le dessin de la patiente de la semaine avec une petite anecdote.
Oui, je fais ça. Alors, si vous voulez vraiment celle qui m'a marquée, j'ai géré une hémorragie très sévère ce week-end en garde et on a passé la nuit ensemble. Et ça m'a marqué, oui. Elle a saigné énormément.
Alors, vous l'avez dit, on n'examine pas simplement des vagins quand on est gynécologue, on s'intéresse au sein, mais vous dites qu'il est important de ne pas attendre ce fameux rendez-vous chez le gynécologue pour la palpation mammaire et qu'il faut peut-être le faire plus régulièrement. Combien de temps, combien de fois, à partir de quel âge, comment ?
On en parle de plus en plus de l'autopalpation mammaire. En fait, l'idée qui est sous-jacente à ça, c'est de se dire, quand on connaît ses propres seins, qu'on a l'habitude de ses seins, le jour où c'est pas comme d'habitude, on va s'en rendre compte plus vite. Alors ça suffit pas, hein. On peut complètement passer à côté d'une tumeur à l'autopalpation et la plupart des tumeurs sont dépistées sur les examens d'imagerie. Mais le fait de palper ses seins régulièrement, alors les gens disent une fois par mois, moi j'arrive pas une fois par mois, genre je me dis à chaque changement de saison par exemple.
Mais moi je le conseille aux auditrices souvent, et même moi je le fais pas, c'est vrai. Comment on se palpe bien les seins justement?
Alors ce qui est important, c'est déjà de se regarder dans une glace et de vérifier vérifier qu'il n'y a rien, pas d'anomalie au niveau de la peau en bougeant, en levant, en baissant les bras par exemple.
On pourrait voir d'un normal
par exemple. On pourrait voir un mamelon ombiliqué, un mamelon qui rentre. On pourrait voir une zone un peu comme de la peau d'orange ou une zone plus rouge, ou une zone qui se rétracte au moment où on bouge. Et ça, ça peut être le signe d'une tumeur sous-jacente qui attire la peau. Donc la première chose, c'est déjà de se regarder. Et ensuite, quand on se palpe, il faut vraiment palper tout le sein. Donc soit vous faites une petite spirale.
On lève le bras, on laisse le bras. Enfin, vous voyez, il y a une façon de se tenir pour le faire.
Non, il faut vraiment avoir la main à plat, sous la douche, pourquoi pas, et palper l'ensemble du sein. Alors, soit vous divisez en quatre dans votre tête, et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes passé partout. Et on n'oublie pas de se palper sous les bras pour vérifier s'il n'y a pas de ganglion.
Et mieux vaut une palpation régulière dès le plus jeune âge, je ne sais pas à partir de quel âge on peut commencer, plutôt que des mammographies qui servent parfois à rien. Parce qu'on voit parfois des demandes.
À Paris,
de
mammographies, surtout, beaucoup de femmes.
C'est-à-dire de type de dépistage, hein, évidemment. Si on sent quelque chose, on va faire une mammographie, mais mieux vaut se palper d'abord les seins.
Oui, alors la mammographie, elle est organisée à partir de 50 ans, âge auquel le cancer du sein est beaucoup plus fréquent. Mais il existe des cancers du sein chez des femmes plus jeunes. C'est moins fréquent, mais ça existe. Et c'est vrai que comme on n'y pense pas, ils peuvent être pris en charge plus tardivement. Et là, c'est dramatique. Donc on s'autopalpe à partir de, je sais pas moi, 25 ans. On prend l'habitude de le faire et puis c'est parti.
Vos patientes, elles vous en parlent, elles le font, ou c'est quelque chose que vous rappelez en consultation qu'il faut le faire?
Oui, j'en parle assez régulièrement avec mes patientes. Parfois, c'est elles qui amènent le sujet parce qu'elles ont eu une amie, une sœur, quelqu'un qui a eu un cancer du sein et donc du coup, elles sont sensibilisées. Et parfois, juste quand c'est au moment de leur palper les seins, je leur demandais, vous le faites régulièrement? Et la plupart du temps, ils me disent non.
Et au niveau des seins, en dehors de la palpation pour chercher une petite boule, une tuméfaction ou un mamelon qui serait un peu différent, au niveau des aisselles aussi, il faut faire attention aux ganglions,
oui.
C'est ça?
En fait, quand on a une tumeur dans le sein, elle se draine au niveau des ganglions qui sont sous les bras, mais aussi au-dessus des clavicules. Et un ganglion qui est augmenté de volume sous le bras ou au-dessus des clavicules, ça doit vous alerter et vous faire consulter.
Donc on peut avoir un cancer du sein, mais qui en fait, on va le sentir sous l'aisselle ou au niveau de la clavicule. Mais c'est bien un cancer mammaire. Vous disiez tout à l'heure que la partie qui est très importante aussi chez le gynécologue, c'est aussi un moment de parole, souvent pour les femmes. Elles viennent, il y en a une, il y avait un dessin justement sur votre compte Instagram, elle venait pour son frottis annuel et au final, elle a fini par repartir après une longue discussion avec un arrêt maladie parce qu'elle n'en pouvait plus. En fait, vous êtes là aussi pour les écouter tout simplement sur leurs problèmes de vie en général.
En fait, il y a beaucoup de personnes, hein, pas que les femmes, qui ne vont pas chez le médecin parce qu'elles sont en bonne santé, parce qu'elles vont bien. Et parfois, à l'occasion d'un rendez-vous annuel chez le gynéco auquel on s'astreint parce qu'on se dit, faut que je fasse mon frottis, faut que j'y aille, on va se retrouver à parler de ce qui ne va pas au boulot. On traverse une période un petit peu compliquée en ce moment depuis plus d'un an et les gens, c'est arrivé régulièrement ces derniers temps que j'ai des femmes qui craquent au cabinet et que du coup l'examen gynéco ne semblant pas très approprié.
Vous ne faites même pas le frottis à ce moment-là.
Cette dame-là, je ne l'ai pas examinée du tout, juste on a juste discuté et je l'ai arrêtée.
Donc vous pouvez les arrêter pour des pathologies qui n'ont rien à voir avec la gynécologie finalement.
Tout à fait.
Juger la Gigi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on vous parle de gynécologie aujourd'hui sans aucun tabou. Notre invitée, c'est son métier. Elle voit des femmes toute la journée. Dans un instant, on va parler un peu contraception et aussi des règles. Il est temps de briser le tabou autour de ce truc naturel qui nous arrive tous les mois, nous les femmes. On va vous expliquer comment on peut toutes et tous y contribuer à briser ce tabou. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission en direct de Roland-Garros. Europe 1 est la radio officielle du tournoi, je vous le rappelle. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, Juju la Gigi, c'est votre pseudo. Vous êtes gynécologue obstétricienne et vous avez publié le livre Le guide gynéco joyeux et décomplexé aux éditions First. Alors Juju la Gigi, on va s'intéresser à présent à un autre sujet important en consultation de gynéco. On va parler contraception. D'ailleurs, à partir de quand il faudrait vraiment s'en soucier? Parce que bien souvent, les mamans, par exemple, elles devancent un peu le truc, elles traînent leur fille chez vous. Et docteur, donnez-lui la pilule, comme ça on est tranquille, hein, quelque part. Mais est-ce que c'est la bonne façon de procéder?
C'est sûrement pas la bonne façon, parce que la bonne contraception, c'est celle qu'on choisit soi-même, qu'on a choisie pour soi, et par celle que maman a demandé. C'est-à-dire que si c'est la maman qui en demande, le risque, c'est que la fille adhère pas du tout à la contraception qu'on va lui proposer. Donc je suis pas sûre que ce soit la bonne façon de faire. À partir de quand faut prendre une contraception? À partir du moment où on en a besoin, c'est-à-dire si on est dans des relations hétérosexuelles et qu'on souhaite ne plus se protéger par le préservatif et qu'on n'a pas envie d'être enceinte, il faut envisager une contraception, quelle qu'elle soit.
Alors on va tordre le cou à certaines idées reçues. On peut avoir 20 ans, ne jamais avoir eu d'enfant, ni de grossesse, et avoir un stérilet. C'est pas réservé simplement aux mamans qui viennent d'accoucher?
Et non, là, non, longtemps, on a considéré les choses comme ça, mais en fait, ça n'a pas de sens.
Ça continue un peu encore, je
trouve. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer.
Le stérilet peut être une très bonne contraception pour les toutes jeunes femmes, c'est
tout
ça?
Tout à fait. En fait, le problème du stérilet, c'est que c'est un corps étranger dans l'utérus, et donc si on attrape des infections, notamment les infections sexuellement transmissibles comme les chlamydia, ils vont plus avoir tendance à provoquer des infections génitales hautes, et le risque, c'est l'infertilité plus tard s'ils abîment les trompes. Et donc, c'est pour ça que pendant un moment, on a refusé ces stérilets. enfin on devrait pas dire stérile parce que ça rend pas stérile, hein, ces dispositifs intra-utérins, on les a refusés aux femmes jeunes qui n'avaient pas eu d'enfants. Mais en fait, c'est pas une question d'âge, c'est une question de ce qu'on fait avec sa sexualité.
Ce qu'on fait de ses 20 ans, en fait, c'est ça qu'on dit dans le bouquin.
Parce si on a une sexualité qui est très safe, toujours protégée avec un partenaire stable ou alors avec des partenaires qui ont des dépistages réguliers et qu'on prend pas de risque d'IST, on peut avoir un stérilet, il n'y a pas de problème.
En revanche, 35 ans, un mari et 4 amants, c'est moins bien le stérilet.
Eh ben voilà, ce sera pas une bonne idée.
Quoi qu'il arrive, c'est pas bien d'en avoir 4 amants indépendamment de la contraception.
Ah, mais j'étais sûr que vous alliez dire ça.
Est-ce que d'ailleurs, il y a certaines patientes qui vous demandent votre propre moyen de contraception pour se dire tiens, je vais faire comme vous. Et qu'est-ce que vous leur répondez ?
C'est étonnant. Les femmes me posent souvent la question et je leur réponds.
Elles veulent comme le docteur, quoi.
Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que moi, j'ai ma vie, mon histoire de femme, de famille, de couple et qui sera différente de celle de la patiente. Et donc, ma contraception, elle me convient. Moi, elle ne conviendra pas forcément à quelqu'un d'autre. Et puis, ma contraception, elle a évolué au fil et à mesure de ma vie. Donc, encore une fois, la bonne contraception, c'est celle qu'on a choisie pour soi. Et pas celle de la voisine, de la sœur ou du gynéco.
D'accord. Il y a un autre sujet qui vous agace particulièrement, c'est ce tabou qui est encore autour des règles. Pourquoi, selon vous, les femmes sont encore nombreuses comme ça à cacher, franchement, je vais dire ça, mais je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent vont se sentir ciblées, à cacher le tampon comme ça sur le chemin des toilettes. On le cache comme on peut dans la poche d'arrière, dans la main, et puis paf, parfois il tombe. Et là, alors là, c'est gênant, tout le monde devient rouge. Enfin, pourquoi on en est là encore en 2021 ?
Honnêtement, je sais pas. Ça a toujours été tabou et c'est en train. Quand même, on en parle beaucoup, hein, que ce soit sur les réseaux, les associations féministes. Il y a beaucoup de gens qui se sont emparés du sujet, mais ça reste quand même quelque chose de très tabou et il est temps qu'on en sorte.
Et est-ce que dans les services de maternité, on peut imaginer où il y a majoritairement des femmes, on prend en charge des femmes, il y a des sages-femmes, il y a des gynécos qui sont hommes ou femmes, est-ce qu'on est plus détente sur ce sujet ou là encore, il y a encore quelques petites...
On est détente pour en parler entre nous, mais bon, la dernière fois, j'ai voulu faire un test. J'avais mes règles, vous allez tout savoir. Et donc, je suis arrivée au milieu de la salle de naissance en disant « Quelqu'un n'aurait pas un tampax pour moi ?» Parce que, y a quand même eu un mini froid.
Même en maternité, c'est incroyable.
Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis après...
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change ? Alors, je fais exprès de vous poser cette question, parce que dans le livre, vous parlez de vos petits garçons, vous en avez 3. Et vous avez une méthode assez radicale avec votre Tankerville. Ils sont au courant quand vous avez vos règles à la maison.
Alors moi, j'utilise entre autres des serviettes réutilisables. Et donc, je les mets bien assez séché en évidence sur mon Tankerville, comme ça ils m'ont demandé ce que c'était, je leur ai expliqué, et c'est pas du tout tabou.
Et ils savent que tant qu'ils le voient, ils pourront avoir un petit frère ou une petite sœur.
Exactement, ils ont bien compris que tant que les serviettes séchaient, j'étais pas ménopausée, je pouvais faire un bébé.
Alors justement, étant donné que vous parlez des serviettes réutilisables, les femmes oublient que ces serviettes hygiéniques, elles sont majoritairement composées de plastique qui va être contact des muqueuses, qu'on va mettre parfois dans le vagin, et que forcément, eh bien, ces serviettes hygiéniques ne sont pas forcément dénuées de risque.
Oui, il y a vraiment, je pense, deux plans sur ces serviettes et tampons jetables. Il y a l'impact pour la santé parce qu'ils ont été, on pense qu'ils la plupart contiennent des perturbateurs endocriniens qui sont mauvais pour la santé. Et au contact des muqueuses, effectivement, il y a probablement un passage dans le sang. Et l'autre chose, c'est l'impact pour la planète parce que quand on jette, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de tampons ou de serviettes au cours d'une vie.
Donc vous conseillez quoi ? Vous avez des conseils là-dessus pour les femmes qui vous demandent, en tout cas ?
Moi, je conseille pas l'un plutôt que l'autre. Encore une fois, il faut que les femmes, elles se sentent à l'aise. Il y a certains boulots où c'est impossible d'aller vider sa cup aux toilettes. On ne va pas utiliser une cup. Les cups, c'est les coupes menstruelles qu'on place à l'intérieur du vagin qui recueillent le sang, qui sont réutilisables, etc. C'est vraiment en fonction de sa vie, ses envies. Puis on peut avoir différentes protections au fur et à mesure de la journée, pas la même le jour que la nuit.
En tout cas, s'intéresser aux substances quand même qui contiennent ces produits, c'est important au moins pour sa santé.
Il faut faire attention aux produits jetables parce qu'ils peuvent être pas bons pour la planète et pour la santé.
Très bien. Juju Lagigi, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas. Europe 1. Sans rendez-vous, reviens dans un instant et on va poursuivre cette émission dans laquelle on vous décrypte tout ce qu'il se passe chez le gynécologue, sans tabou. Et oui, ici dans cette émission, aucun sujet ne nous fait peur. On va parler fibromes, kystes sur les ovaires. Est-ce que c'est grave, docteur ? On va tout vous expliquer, alors restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Europe 1 vous fait gagner 2 places à Roland-Garros pour la finale de votre choix. Homme ou femme, c'est vous qui choisissez pour jouer et avoir une chance de gagner. Envoyez tennis au 739-21. Le tirage au sort s'effectuera le mercredi 9 juin. Alors je vous le rappelle, c'est tennis au 739-21. Bonne chance à tous.
Tennis au 739-21.
75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous en direct de Roland-Garros et elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Juju la Gigi. Je rappelle que c'est votre pseudo. Vous êtes gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années. Alors, en consultation de gynécologie, vous êtes amenée à diagnostiquer chez des femmes des pathologies forcément graves ou moins graves. Mais c'est vrai que bien souvent, nous, ces pathologies, on les découvre quand elles nous tombent dessus. Alors, on va faire ensemble un petit focus des plus fréquentes, on va dire. D'abord, les fibromes utérins, c'est quoi ? Quelle taille ça fait, ce truc-là ?
Alors les fibromes, c'est une sorte de boule de fibres qui se développe aux dépens du muscle de l'utérus. Et ça peut avoir un peu toutes les tailles, c'est-à-dire, j'aime bien les comparaisons de fruits. Ça va de la taille, fruits et légumes, du petit pois, et ça peut être gros comme un pamplemousse.
On a Roland-Garros, on peut dire une balle de tennis peut-être.
Ah oui, ça peut être gros comme une balle de tennis, mais gros, non, peut-être pas comme une balle de football.
C'est un peu grand. Là.
En tout cas, ça peut être vraiment, on peut en avoir un ou plusieurs, et voilà.
Quelle est la différence entre avoir des fibromes et une endométriose?
Alors ça n'a vraiment rien à voir. Pour le coup, les fibromes sont donc des boules de fibres développées aux dépens du muscle, alors que l'endométriose, c'est des cellules de l'endomètre, donc la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, qui vont aller se fixer un peu partout en dehors de l'utérus. Ce sont vraiment deux pathologies extrêmement différentes.
Est-ce que c'est quelque chose de très fréquent, les fibromes? Et est-ce qu'il y a, par exemple, peut-être un profil de femmes qui sont plus concernées par ce problème-là?
Les fibromes sont très très fréquents. Parfois, on ne sait même pas qu'on en a, mais peut-être qu'au moins, vers la moitié d'entre nous en auront dans leur vie et c'est pas grave.
Je vais en développer pourquoi? Est-ce que j'ai un profil? J'en sais rien. Est-ce que c'est des femmes qui sont plus en surpoids, plus âgées, plus...
Non, par contre, c'est plus fréquent chez les personnes qui sont d'origine africaine.
D'accord. Oh, c'est le profil éventuellement à risque.
Et quand on parle de fibrome, peut-être que le raccourci qu'on peut faire, en tout cas que les patientes peuvent faire, c'est de l'associer à une maladie grave comme un cancer. Parce que dès qu'on parle de polypes, de trucs, d'anomalies, forcément, on se dit que ça va être quelque chose de grave. Est-ce qu'on peut les rassurer ou au contraire peut-être les alarmer en disant...
Non, au contraire, il faut les rassurer. C'est vrai que quand on parle d'avoir une boule quelque part, notamment dans le sein, on en parlait tout à l'heure, on va tout de suite penser cancer. Les fibromes sont toujours bénins. Il n'y a pas de fibrome qui peut se cancériser. Ça n'existe pas.
Mmh. Il y a dans votre livre, vous parlez du plus gros fibrome utérin que vous ayez eu sur lequel vous avez eu à travailler en consultation. Il était quand même super méga costaud celui-là.
C'est une femme qui avait en fait beaucoup de fibromes et son utérus remontait jusque sous ses côtes.
Comme si elle était enceinte en fait.
Exactement.
Du coup, on voyait même un ventre grossi.
Tout à fait.
Hein, c'est ça,
elle avait un ventre comme une femme enceinte à terme.
Alors vous l'avez dit, souvent ils ne sont pas douloureux, mais est-ce que ça peut l'être? Est-ce qu'un fibrome peut faire souffrir? Est-ce qu'il peut y avoir des complications? Est-ce que ça peut se tordre, se rompre? Est-ce que ça peut gêner la vie des femmes?
Les fibromes, parce qu'il a déjà les réponses en fait. Est-ce que ça peut se rompre par hasard? Ça peut se rompre?
Non, les fibromes, ils ne se rompent pas. Ce n'est pas des kystes, mais c'est des boules de fibres, donc ils ne peuvent pas se rompre. Par contre, s'ils deviennent importants, volumineux, ils peuvent gêner les organes voisins, ils peuvent appuyer sur la vessie, donner des symptômes urinaires, au contraire, gêner derrière en appuyant sur le rectum. Ils peuvent être douloureux parfois quand ils se ramollissent, on appelle ça la nécrobiose, ça peut arriver notamment pendant la grossesse.
Est-ce que c'est la même chose que les polypes utérins ou ça n'a rien à voir?
Ça n'a rien à voir. Les polypes, eux, ils sont développés au niveau de l'endomètre. En fait, un polype, de façon générale, c'est une petite excroissance qui se met dans la lumière, c'est-à-dire à l'intérieur d'un organe. On peut en avoir dans la gorge, on peut en avoir sur le tube digestif et donc on peut en avoir dans l'utérus.
Alors, vous avez un peu amorcé la réponse lorsque je vous ai demandé si les kystes, les fibromes ne pouvaient se rompre. Vous avez dit non, ce ne sont pas des kystes. Mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un kyste au niveau de l'utérus, des ovaires? Est-ce qu'on peut en avoir? Est-ce que ça peut faire mal d'ailleurs?
Alors, les kystes, c'est des boules.
Vous n'en aurez jamais, Jimmy. Vous, ça, c'est sûr, déjà, je peux vous rassurer.
Parce que je n'ai pas d'utérus.
C'est ça.
Parce que c'est pour
ça qu'il n'y a pas d'ovaires. Des kystes ailleurs.
Oui.
Les kystes, on en a principalement, pour ce qui est de nos pathologies gynécologiques, sur les ovaires.
Mais deux sortes, possibles, je crois qu'il y a des kystes
fonctionnels. Il y a les kystes qu'on appelle fonctionnels et qui sont en fait liés au fonctionnement normal de l'ovaire. Et c'est pas grave du tout, c'est un follicule. En fait, tous les mois, on a un follicule qui va devenir un follicule dominant. Il va se rompre en milieu de cycle et il va provoquer l'ovulation. Bah, parfois, ce follicule va devenir très gros et être un kyste fonctionnel. C'est toujours bénin, c'est pas grave et ça passe tout seul. À l'inverse, il y a les kystes qu'on appelle organiques, qui peuvent être liquidiens, tissulaires, parfois mixtes, et qui peuvent être bénins ou par contre malins, c'est possible aussi.
Et on les découvre souvent de façon fortuite, c'est ça, à l'échographie, par hasard? C'est-à-dire qu'on ne savait même pas qu'il y en avait?
Si le kyste ne fait pas mal, on peut s'en rendre compte complètement par hasard à l'échographie, tout à fait.
Alors justement, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK. De quoi s'agit-il? Et je crois qu'il porte très mal son nom,
Son nom, effectivement, parce que quand on entend syndrome des ovaires polykystiques, on a l'impression qu'on va avoir un ovaire avec plein de kystes, or c'est pas le cas. C'est un ovaire qui sera plein de follicules. Les follicules, encore une fois, c'est normal d'en avoir. C'est eux qui vont donner les ovules. Mais normalement, on en a une dizaine, en gros, sur chaque ovaire qui mature tous les mois et puis un qui devient dominant. Et dans les ovaires polymicrokystiques, on va avoir plein de follicules. Et il va y avoir une sorte de désordre hormonal lié à cette multitude de follicules présents sur les ovaires.
Et du coup, de quoi vont se plaindre les femmes qui souffrent de syndrome d'ovaire polykystique, de douleurs abdominales?
Ce syndrome se définit quand on a deux de trois critères. Des critères cliniques, c'est-à-dire des troubles des règles, avec des règles qui vont être irrégulières, parfois des cycles très longs, voire pas de règles, une hyperandrogénie, c'est-à-dire trop d'hormones mâles, et ça peut se traduire par une hyperpilosité ou de l'acné. Et puis à l'échographie, on va compter beaucoup de follicules sur les ovaires.
Très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, comment on sait qu'éventuellement on a ça, on souffre de ça ? Qu'est-ce qui doit pousser à consulter ?
Par exemple, vous avez vos règles trois fois par an et puis vous avez du duvet sur les joues, vous avez peut-être un syndrome des ovaires polykystiques.
C'est très clair, on a compris. Merci beaucoup, Gigi Lagigi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre, Le guide gynéco joyeux et décomplexé, qui est paru pour vos éditions First. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un focus sur un aliment de notre quotidien, le lait. Que contient réellement le bol du petit déjeuner pour certains ? En quoi le lait et les produits laitiers dans leur ensemble sont-ils bénéfiques pour notre santé ? On y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous en direct de Roland-Garros. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un éclairage autour d'un aliment très consommé par les Français, le lait. Alors justement, savez-vous précisément ce que contient le bol que vous donnez peut-être tous les matins à vos enfants ? Quels sont les bénéfices pour eux et même pour nous adultes en consommant du lait et des laitages au sens large ? Quelle quantité d'ailleurs est réellement recommandée quand on est déjà un grand gaillard comme le docteur Jimmy Mohamed ? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Valentin Piovesan.
Le lait, c'est du liquide qui sort d'un animal du type vache, chèvre, brebis.
Ça peut être végétal, animal. Je pense que c'est bien de faire la distinction aussi.
On entend parler du lait déjà à la naissance avec le lait maternel.
Je pense qu'en fonction de où on en est dans notre vie, il y a des laits qui sont mieux à consommer que d'autres, comme le lait de vache qui sont à consommer jeunes et qui après sont beaucoup moins bons pour la santé. Donc le lait, c'est vraiment une base d'alimentation.
On a toujours dit que c'était quelque chose d'indispensable pour la croissance, pour le calcium.
Les bienfaits du lait, il me semble que ça rend force les os. C'est conseillé de boire un verre par jour.
Ah, il faut surtout se réguler, il faut pas en boire de trop parce que c'est un peu trop gras, je pense.
Il y a des bonnes matières grasses dans le lait. Oh, je vais vous dire une bêtise, je sais pas s'il y a pas des vitamines ou des protéines, des choses comme ça. Peut-être un peu de sucre aussi. Les sucres du lait sont meilleurs que d'autres en tout cas.
Alors Jimmy, le lait c'est quoi finalement ? Ça sort de la vache, de la chèvre, de ce qu'on veut, mais ça c'est composé de quoi ? On va prendre, admettons, le lait de vache.
Alors le lait est composé majoritairement d'eau. 90% c'est de l'eau que vous avez dans le lait. C'est aussi pour ça que les nouveau-nés peuvent prendre du lait sans eau et on ne donne pas un biberon d'eau au nouveau-né. Mais ça va contenir aussi des protéines, un peu de glucides. Et puis dans le micro-trottoir, certains disent c'est un peu gras. Mais ça c'est une des idées reçues, c'est que le lait serait très gras. Il y a effectivement des matières grasses, mais si on prend le lait entier, c'est simplement 3,5% de matière.
Très peu en fait.
Ouais. Et le lait demi-écrémé, donc c'est quasiment la moitié, donc c'est 1,5%. Donc finalement, le lait, c'est assez peu gras et peu calorique.
Tous les nutriments qui sont contenus dedans, qui sont bons pour nous, ils sont bons pour quoi précisément, pour notre organisme ?
Alors l'intérêt majeur, évidemment, du lait, c'est le calcium qui est important pour la solidité des os, des dents, qui sert aussi à la contraction musculaire et aussi à la coagulation. Mais dans le lait, vous n'avez pas que du calcium, vous avez plein de nutriments, du magnésium, du phosphore et aussi des vitamines du groupe B, B1, B6, B12, B9, on ne va pas faire tout le catalogue, et puis des oligo-éléments comme du zinc, mais aussi d'autres vitamines comme la vitamine D. Et en plus de ça, le lait est très bien absorbé et digéré quand on n'est pas allergique et intolérant au lactose.
Alors néanmoins, nos besoins en lait, ils varient en fonction de l'âge. Déjà, on va prendre d'abord les bébés, les enfants. Ce sont eux qui ont besoin de plus grandes quantités. Combien précisément et jusqu'à quand ?
À partir de 6 mois jusqu'à 3 ans, les enfants ont besoin de 500 ml de lait par jour. Et puis ensuite, chez l'enfant, l'adolescent et la personne âgée, ils ont besoin de 3 à 4 produits laitiers tous les jours et les besoins diminuent un peu à l'âge adulte.
Pour nous adultes, Jimmy, qui sont pas dans ce que vous venez de dire, on a besoin de combien ?
1 à 2 produits laitiers, ça veut dire que vous n'avez pas spécialement besoin que du lait, ça peut être remplacé par autre chose comme du yaourt ou un fromage, ça peut compter comme un produit laitier. Mais à l'inverse, attention, la crème fraîche et le beurre ne font pas partie des produits laitiers.
Ah, dommage.
Mais non, ça fait plaisir, mais ils sont beaucoup trop gras et ne vont pas compter comme un produit laitier. Donc, il faut compenser avec autre chose.
Si je suis intolérant au lactose ou même allergique au lait, ça existe ? Il y a des alternatives ? Enfin, comment on peut faire ?
Alors, si vous êtes intolérant au lactose, ça veut dire que vous manquez d'une enzyme qu'on appelle la lactase qui sert à digérer le lait. Et à ce moment-là, on sait que vous allez avoir des douleurs abdominales, des ballonnements, de l'inconfort digestif, mais avec des degrés assez variables. Certains vont être très intolérants, d'autres très peu et vont avoir peu de gènes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que de prendre des laits sans lactose.
Ça existe,
notamment chez
ça a le même
enfants.
Goût hein, quasiment.
Exactement, ça a le même goût. Enfin, n'oubliez pas que quand on parle de lait, il faut bien comprendre que le lait d'amande, le lait de soja ne font pas partie des produits.
Des jus végétaux.
Exactement. Donc attention, vous pouvez en prendre si jamais ça vous fait plaisir. Mais pour la santé des enfants, il ne faut pas le compter comme un produit laitier car ça manque de gras, ça manque de nutriments, ça manque de fer. Et donc par conséquent, l'enfant peut être dénutri si on lui donne simplement ce lait. Donc oui, pour l'apéro, ça vous fait plaisir. Mais n'oubliez pas que les produits laitiers sont importants. Ils sont
lait
bons
d'amande,
pour la vie.
Lait de soja pour tout le monde à l'apéro chez les Mohamed. Merci beaucoup. beaucoup, Jimmy, pour toutes ces explications. Europe 1. Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, c'est donc dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Entre 15h et 16h, on va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec studio avec nous, en studio avec nous, notre sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Louane. Elle a 24 ans, je vous la lis tout de suite. Mon copain a 23 ans et dès qu'il est devant la télé ou sur son téléphone, met sa main dans son caleçon sans vraiment s'en rendre compte, sauf qu'il fait ça super souvent. Pourquoi est-ce qu'il fait ça et comment faire pour que ça s'arrête? Alors Catherine, Louane, elle dit une chose qui semble assez universelle. Pourquoi les mecs mettent tout le temps leurs mains comme ça dans leur slip? Moi, j'avais plus souvenir, c'était quand même les petits garçons. Souvent, on a eu des questions d'ailleurs dans ce sens-là déjà dans l'émission, mais là, c'est un adulte quand même. C'est étrange un peu.
Alors d'abord parce qu'effectivement, ce sont les petits garçons parce qu'ils découvrent au moment.
Là, il a 24 ans.
Oui. Hein, ouais. Non, ce sont les petits garçons quand ils découvrent leur pulsion sexuelle, que c'est une zone qui s'éveille et qui est tellement accessible avec un pénis qui change de forme, de taille, etc. Au fur et à mesure des émotions et de la journée, inévitablement, ça devient un peu une sorte de fonctionnement presque réflexe conditionné de Pavlov, qui pour certains va rester parce que c'est un réflexe. Mais indépendamment de cela, la réalité, c'est que rendons-nous à l'évidence qu'ils ont des pénis qui bougent. Nous avons des seins qui sont extérieurs aussi, que nous replaçons le cas échéant dans nos soutiens-gorge. Mais un pénis, il change de taille régulièrement. Donc l'homme marche, ce pénis évolue. Donc ils ont l'habitude de le replacer. Et ça devient presque un naturel. Et ils oublient qu'il y a parfois un public.
Oui, parce que vous dites que les femmes replacent leurs seins de temps en temps.
Bon, on le fait discrètement plus que vous.
Voilà, c'est ça. On a l'impression que les hommes, c'est presque de façon ostentatoire et qu'ils montrent qu'ils ont la main dans le slip. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des gens autour d'eux. J'ai mal à cerner parfois.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont dans un mécanisme. C'est-à-dire c'est presque une main qui agit toute seule. C'est à se demander.
Hier, vous parlez de doigts dans le nez, Jimmy. Il y a des gens qui commencent à s'en rendre compte. Bah, c'est peut-être la même chose. Hein.
C'est ça. Il y a des gens qui attendront qu'il n'y ait vraiment personne et qui se seront assurés qu'il n'y ait personne. Il y a des gens qui font dans leur voiture. Je parle du doigt dans le nez.
Parce que la main dans le caleçon, c'est un peu sur la télé, dans le canapé, devant la télé. Comme si c'était.
Heureusement que vous ne faites pas ça au travail, Jimmy.
C'est bien pour ça que je parle de réflexe conditionné de Pavlov, parce que c'est un moment d'abandon, de tranquillité, de entre soi et la télévision.
Pénard devant personne. Un match de foot.
Voilà, ça vous parle, j'ai l'impression.
Non, mais j'ai entendu des gens autour de moi.
Le cousin, du cousin, c'est ça.
D'un ami, voilà. Effectivement.
Voilà, bien sûr, on a un ami, ami d'amis.
C'est embêtant, Catherine, quand même, parce que bon, chez des petits garçons, admettons, tout petit, c'est pas bien grave, voilà, mais quand on est adulte, faire ça, alors même si c'est devant sa compagne qui est très amoureuse, bon, c'est pas hyper glamour comme truc quand même. Pourquoi ils s'en rendent pas compte quand même? Quand on se touche, on s'en rend compte?
Bah ça, alors bien sûr qu'ils s'en rendent compte, mais ils s'en rendent
mais
pas
ils
compte.
Ils s'en fichent.
Oui, c'est ça, mais ils sont pas, ils sont dans un truc avec eux-mêmes, c'est dans une normalité avec eux-mêmes. Je pense que les femmes, nous sommes dérangées.
Entre eux et Kylian Mbappé, ils regardent la télé, et voilà, ils sont tranquilles.
Voilà,
quoi.
Et puis ça fait du bien, c'est agréable. Comme d'ailleurs, on pourrait comparer ça un petit peu, vous savez, à toute proportion gardée. Bien sûr, mais les femmes qui sont beaucoup à toucher leurs longs cheveux, elles parlent et puis pendant ce temps,
Moi, je fais ça, mais ça gêne personne, je crois. Quand même.
Oui,
et pourtant,
quand même.
Et voilà, c'est plus charmant, bien sûr, parce que c'est plus une sexualité détournée, parce que c'est sensuel.
C'est que des cheveux, quoi. Enfin, ça va.
Bien sûr, ce ne sont que des cheveux, mais je vous rappelle que dans certaines conditions, le cheveu va être vraiment perçu comme étant
très érotique
et un symbole de poils pubiens et autres. Donc, je veux dire, rendons-nous à l'évidence que toucher les cheveux, montrer sa toison de cheveux, c'est aussi une façon d'érotiser son corps, ses sensations, etc. Donc les femmes, nous le faisons sur quelque chose considéré très loin de la sexualité quand les hommes le font avec leur pénis. Est-ce à dire qu'ils ont le droit de faire, liberté chérie, bien sûr, mais il n'empêche que nous avons des enfants, nous avons notamment des jeunes enfants, et on peut comprendre que ça a un véritable impact, par exemple, sur des petits garçons, mais surtout des petites filles qui verraient papa à la main dans le slip en train de se tripoter. Et parce que à plusieurs égards, d'abord ça renvoie au fait qu'il y a un pénis et ça renvoie à l'idée qu'elles vont visualiser symboliquement le pénis de leur père, et puis ça renvoie aussi au fait qu'elles n'en ont pas, ce qui est aussi extrêmement douloureux. Et c'est peut-être ça que nous reprochons, nous les femmes, aux hommes, c'est que c'est outre le fait que le geste n'est pas très élégant, c'est que effectivement ça nous renvoie qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas et que nous ne tripotons pas.
Très rapidement, Jimmy,
vous parlez des enfants, est-ce qu'il faut les réprimander lorsqu'ils font ce geste? Est-ce qu'on doit leur dire retire ta main,
fais ça dans ton lit, dans ta chambre ?
Alors, c'est pas réprimandé, c'est recadré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de du témoignage de son intimité, et dans la mesure où on peut respecter, on respecte les autres en n'engageant pas les autres dans notre intimité. Mais c'est pas de la réprimande pour autant.
Très bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient donc demain, même heure, sur Europe 1. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, Mélanie, ils ont sorti la grand voile et glissé sous le vent.
Ah ça, je connais ces paroles.
Vous connaissez, ben c'est Baudelaire. Non, ah non, Garou et Céline Dion.
Eh ben oui, Garou, absolument.
On en parlera.
Ah oui, eh ben moi je vais vous parler de Jacques Cartier, qui a sorti la grand voile et qui est parti découvrir le Canada. Et puis Joshua Slocum, il a fait le tour du monde aussi, mais il en est arrivé des mésaventures.
Enfin, deux vrais navigateurs et un faux. En gros, c'est le résumé de l'émission.
Très bien, on va rester avec vous sous le vent, avec Jimmy Mohamed. Et vous aussi qui nous écoutez, surtout, restez sur Europe 1. Hein.